Info.
Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 1h.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Béarn Bigorre.
Ici Béarn Bigorre.
Ici Béarn Bigorre.
À Dichat.
Plouilleux et Sénienne, dure toute l'année.
Les Modoc.
Le Smout Doc.
À Tijuana.
À Dichat, Ouna. Et Dildora.
Avant, c'était comment ça que même t'es eu petite débinaille.
Oh.
Prenez une machine Thames. Qu'est-ce qui cadre dans le
Qu'est-ce qui tombe du ciel? La plouille.
Oh, Sénian, qu'il y a eu grand reste qui se restait à l'entour du grand rouec. T'as célébré le solstice de l'estio ou le cantam et dansam.
Qu'il y a eu reste?
Oh. La Saint-Jean, c'est une grande fête qui se fête autour d'un feu pour fêter le solstice en été où on danse et on chante. Et si plein ou loubine de quoi tout déjeune, qu'il va au disque et va plaver toute l'âne. Si il pleut le 24 juin, ça voudra dire qu'il va pleuvoir tout l'an.
Il n'y aura pas des wakes.
Oh.
La pluie va éteindre le feu de la Saint-Jean. Heureusement qu'il ne pleut pas souvent alors.
Le solstice, qu'il nous dit, il passe à Manastio. Le solstice, c'est le jour où on passe en été. Et qu'il nous dit, il nous met longue de la naze.
Ah, c'est vrai que c'est le jour le plus long de l'année. On peut faire la fête. Merci, sœur.
Adichat, Anna.
Adichat.
Les mots doc.
Le smuts doc.
À retrouver en podcast sur l'appli ICI.
ICI, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ICI mène.
C'est une attraction à ne pas manquer cet été. Une belle manière de redécouvrir notre ville du Mans sans effort et dans l'ambiance des chimères. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le petit train nocturne du Mans. 20h30, place des Jacobins à côté du pâté, devant moi, un petit train blanc, bien garé, attendant les premiers visiteurs. L'occasion est parfaite, je décide d'aller voir Myriam, animatrice depuis 4-5 ans. C'est elle qui accueille les voyageurs. Emmanuel, son compagnon, est le chauffeur depuis environ 8 ans. Ancien chaudronnier de métier, il a rencontré cet univers dans un concours de circonstances.
J'ai cherché dans les bus, j'ai pas trouvé et j'ai répondu par hasard à une annonce à un petit train.
Aujourd'hui responsable du Mans, il garde sa passion intacte et me fait grimper dans sa locomotive. Face à moi, un grand nombre de boutons.
Alors on a toute la partie forcément tableau de bord avec le niveau de gasoil, le niveau de température, un petit peu comme une voiture, le niveau d'air aussi comprimé.
Et puis plusieurs autoradios reliés aux différents wagons pour diffuser la bande sonore.
Chers amis, bonsoir.
Je m'installe alors à côté d'un couple d'octogénaires assez particulier. Dominique est bretonne, Lothar est allemand. Tous les deux sont venus découvrir la vieille ville et n'avaient pas forcément envie de beaucoup marcher. Dominique nous avoue d'ailleurs qu'elle n'avait pas fait de petit train depuis son enfance. Quelques minutes plus tard, Myriam passe dans les wagons pour distribuer des bracelets lumineux. Manque de chance, notre ami Lothar casse le sien.
Il a cassé.
Ah, vous voulez que je vous le donne?
Attendez. Non.
Un peu triste de ne plus avoir mon bracelet, je n'ai pas vraiment le temps de pleurer parce que la balade de 40 minutes démarre. Un parcours nocturne qui vous promène à travers la cité Plantagenêt jusqu'à la muraille romaine. Vous pouvez y observer différents points stratégiques, portraits sur les arbres, projections sur les monuments, et puis sentir cette ambiance. Tout le monde a le sourire et rigole. Certains font coucou aux passants dans la rue et les gens répondent. J'ai eu l'impression d'être un peu dans une bulle féerique. C'était très particulier et assez magique. Seul bémol, faut bien tenir son téléphone sur les pavés du Vieux Mans, sinon vous aurez beaucoup de photos floues.
Alors, moi, je vous cache pas que ça secoue un petit peu, hein. C'est le charme du Vieux Mans.
Mais rassurez-vous, plusieurs moments exprès pour les photos sont prévus. Et c'est après une remontée sous le tunnel que notre petit train termine son voyage à la case départ, place des Jacobins. Tout le monde est ravi. À peine les gens descendent qu'une deuxième tournée se prépare pour toutes celles et ceux qui n'avaient pas pu réserver. En clair, une belle parenthèse enchantée à faire en famille, le petit train du Mans, c'est testé et approuvé par ICI Mène.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ICI Nord.
Vous connaissez notre invité qui, le matin, avec son super pouvoir, peut vous prédire en cas de risque de pluie au mètre près l'endroit où vous pouvez disposer votre barbecue afin de ne pas mouiller vos merguez.
Je m'appelle Patrick Marlière, je suis météorologue. J'habite ici à Ramoucou où j'ai ma société météorologique.
C'est venu comment la météo pour vous, Patrick ?
Depuis que je suis gamin, je veux comprendre ce qui se passe. Je veux comprendre comment on arrive à faire des prévisions météo. Et j'ai fait des études pour réussir les concours et en faire mon métier.
Quelles études alors ?
Un bac scientifique pour ensuite arriver à ce concours de la météorologie, qui est un concours national, pour entrer à l'école de la météo. J'ai fait une dizaine d'années dans l'armée de l'air, parce que évidemment, dans chaque base aérienne, il y a un service météorologique. Et puis ensuite, Météo France. Et puis après, les médias m'ont attiré particulièrement. Et c'est vers ces médias que je me suis destiné pour créer ma société.
Alors, au quotidien, à part savoir comment on va s'habiller, à qui sert beaucoup en ville la météo ?
Un exemple qui est vraiment intéressant, je travaillais avec une grande ville, je ne savais pas qui dans la ville utilisait le plus les informations météo. Quand on m'a dit que c'était la police municipale, pourquoi la police municipale ? Mais en fin de compte, lorsqu'il y a de très mauvaises conditions météo, il y a beaucoup plus de personnes qui vont conduire les enfants à l'école en voiture. Et donc, près des écoles, il y avait plus de circulation, plus de voitures, plus de risques d'accident. Et donc la police municipale de cette ville, Tourcoing pour ne pas la citer, elle mettait en place beaucoup plus de personnel pour veiller à la sécurité de ses administrés.
En 50 ans de pratique météo, Patrick, l'outil a évolué.
Aujourd'hui, on arrive à calculer un point météorologique tous les 2 ou 3 kilomètres, des points très rapprochés, ce qui permet d'être effectivement plus efficace.
Et puis, il y a eu l'apparition des radars météo aussi.
Aujourd'hui, avec ces radars météo, on observe les pluies par pas de 5 minutes et vous dire exactement quand la pluie va commencer, quand elle va s'arrêter. Il y a aussi tout ce qui concerne les orages. Aujourd'hui, on a des capteurs de foudre.
Alors, quel est le phénomène météo qui vous a le plus impressionné ?
Alors, moi, c'était des tornades. J'avais fait une émission sur la tornade la plus importante qui a lieu en France. Elle s'est produite à côté de la forêt de Mormal, à Pomereuil, en juin 67, c'est pas d'hier.
À Pomereuil, où pas une maison n'a gardé son toit, l'église a été littéralement scalpée. 7 morts et une quarantaine de blessés, un terrible bilan.
Ça, ce sont des phénomènes tellement spectaculaires, et d'essayer de comprendre comment ils se déplacent, comment ils évoluent, comment ils naissent, comment ils meurent, c'est pas gagné encore pour les météorologistes. On essaye de les expliquer, mais pour les comprendre et pour dire là où ils vont se passer, c'est pas encore gagné.
Merci Patrick, et bon vent.
Moi, c'est ici, la météo, à Rimbaucourt. Ça fait 50 ans et ça va encore durer.
Ici,
actu local, musique et bonne humeur. We'll be right back. Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Champagne-Ardenne.
Ce petit village était bien plus qu'un lieu de résidence pour le général de Gaulle. Colombey les deux églises, c'était son refuge, son havre de paix. Il le découvre en 1934 et tombe immédiatement sous le charme de ses paysages calmes, loin de l'agitation parisienne. Il y achète une maison, la Boisserie, où il vient se ressourcer avec sa famille. Pour de Gaulle, Colombey représente la France profonde, celle des clochers, des champs et du silence. C'est là qu'il médite, qu'il écrit ses mémoires et qu'il puise la force de ses grandes décisions. Pendant la guerre, il pense souvent à ce village comme au symbole d'une France éternelle qu'il veut libérer. Après son retrait du pouvoir en 1969, c'est encore à Colombey qu'il choisit de vivre ses derniers jours dans la simplicité. Et c'est naturellement là qu'il repose depuis le 12 novembre 1970. 3 jours après la mort du général, la France rend hommage à celui qui fut son chef pendant la Résistance et le fondateur de la 5e République. Ce 12 novembre, de très nombreuses messes sont données un peu partout en France. À Notre-Dame de Paris, ce sont 80 souverains, chefs d'État et de gouvernement qui sont présents, venus du monde entier, pour saluer la mémoire du libérateur de la France. Et en début d'après-midi, dans le petit cimetière de Colombey les deux églises, la cérémonie est simple, à l'image de l'homme. À Colombey, les routes sont noires de monde. Et le contraste est saisissant. Une petite église de campagne et plusieurs dizaines de milliers de personnes. On parle de 40 à 50 000 personnes dans ce village de Haute-Marne. Le cercueil, recouvert du drapeau français, est posé sur un véhicule militaire. Il quitte le parc de la Boisserie, à quelques centaines de mètres de là, l'église. Le cercueil est porté par 12 jeunes habitants de Colombey. L'église ne peut contenir que 400 personnes. Ils sont des milliers à l'extérieur à écouter la cérémonie religieuse grâce à des haut-parleurs. Dans la foule, 350 compagnons de la Libération. Dans le cimetière, sur la tombe familiale, une croix de Lorraine est gravée aux côtés de la mention sobre Charles de Gaulle, 1890-1970. Ce 12 novembre 1970, dans le froid de l'automne, à Colombey les deux églises, la France pleure celui qui incarna pour beaucoup la dignité, la grandeur et l'indépendance nationale. Et c'est l'un des trésors de Champagne-Ardenne.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Poitou.
J'irai à l'époque des mammouths et ça veut dire l'époque la préhistoire.
À l'époque où il y avait les dragons et la guerre. Parce que j'aime bien la guerre. Comme ça je me bats.
Quand je serai à l'époque de Jurassic World, je m'en ferai pour pas me faire manger.
Bah moi j'irai en 3060, comme ça moi je verrai le monde après, comment il sera, si ça évolue ou pas, si ça n'a pas évolué. Évoluer, je reviens à la maison.
Bah moi j'aimerais bien aller dans le futur, parce que dans le futur j'aimerais voir le monde quand on sera ado ou mamie.
Moi je voudrais retourner à l'époque là où on était des singes et s'amuser, on serait encore jeune, ce serait trop bien.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts.
Ici Besançon.
Premier sur l'actu locale en Franche-Comté.
Ici Matin.
Allez, on passe la frontière, que ce soit au niveau du col du Locle, de Valorbe, pas de souci. On va en Suisse et on regarde un petit peu ce qu'il se passe chez nos voisins avec David Aubry. Bonjour David.
Bonjour Louise, bonjour à tous.
Alors je le disais, un conflit de voisinage tourne au vinaigre, mais pour la plaignante.
Oui, ah, vous voyez, j'aime bien aller dans la rubrique justice, hein, ça en dit long sur une société. Alors, sur le ring ce matin, la momone, une solide bernoise, la soixantaine bien tapée. Alors c'est le genre de femme, il ne faut pas la chercher, ou alors on la trouve. Hein. Vous allez voir, face à elle, une voisine lambda que la momone ne peut pas blairer. Mmh. Et vous allez voir aussi que notre amie du jour, eh ben elle n'est pas là pour obtenir le prix Nobel. Hein. La diplomatie, c'est pas son truc. Elle, quand elle est contrariée, elle envoie du lourd. C'est le genre grande gueule, sans gêne, c'est un peu la mère Trump du quartier. Alors je vous rassure, elle n'a pas sorti la machine à baf, mais elle a décidé d'afficher sa voisine juste parce qu'elle ne peut pas l'encadrer.
Alors elle l'a en effet affichée au sens propre, hein, pour le coup.
Eh ben absolument. Les faits se sont déroulés dans la buanderie de la Copro, le lieu idéal, là où tout le monde passe et a le temps de jeter un œil sur les murs. Attention, jeu de mots piqué à la presse suisse, la momone, elle a décidé de laver son linge sale en public et sans adoucissant. Sur une affiche en face de la machine, elle traite la voisine de rebut antisocial de l'humanité. Bref, c'est ce qu'on appelle de la diffamation et des injures. Alors, forcément, la dame visée s'est pas laissée faire et elle a porté plainte.
Et le ministère public lui a donné raison.
Évidemment, la momone n'est pas ressortie blanchie de la buanderie. Selon les juges, elle a sali la réputation de sa voisine en portant atteinte à sa dignité et à son droit à la considération. Rien que ça. Et tout ça, eh ben, ça se paye. 620 balles d'amende, frais de justice et un avertissement. En cas de récidive, ce sera 80 balles de plus par jour d'affichage.
Eh ben.
Pour pas risquer de perdre à nouveau ses nerfs, on lui conseille donc de ne s'acheter une machine à laver pour faire ses lessives dans son appart et pas à la buanderie. Et accessoirement, Loïs, on va aussi lui conseiller de prendre une petite verveine, ça détend.
Oui, ça peut faire du bien, surtout de grand matin comme ça. Merci beaucoup, David. Et puis voilà, vos conseils, on les retrouve parce que là, on trouve un super conseil. Achetez votre machine à laver. Voilà, n'allez pas la faire dans un lieu public, on a toujours des risques comme ça. Merci, les conseils à retrouver sur l'application ici et sur ici.fr Besançon. Et puis nous, on se dit à demain, tout simplement. Voilà, David.
À demain.
Ici. Vous écoutez ici.
Sur ma peau gravée par la vie, sous mes yeux cernés par les nuits, les cicatrices de la route, d'un voyage cerné par le doute, les seules traces qu'on gardera. Tes actes seront tes choix. Ouvrir les yeux et pour une fois essayer d'être fier de soi. Essayer d'être fier de soi. Fier de soi. Je sais d'où je viens, qui je suis, ce que j'ai fait. Les faux semblants, les coups tordus, pouvoir soutenir son regard, ou voir un autre dans le miroir, ça reste un choix par hasard. Rester soi-même quand il fait noir, rester soi-même quand il fait noir. Que j'ai dit, je sais d'où je viens, qui je suis, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, tant que coule la vie, dire ce que l'on pense, faire ce que l'on dit. Comme j'ai grandi sans le vouloir, les secondes glissent sur le miroir, rayé comme un mur de béton. Aimer c'est dur, vivre c'est long. Vivre c'est long. Vivre c'est long. Vivre c'est long. Long.
ici, la nuit. Les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Isidro Mardèche.
On prend de l'altitude pour découvrir la ferme du Pré de Mazan et ses vaches laitières qui pèsent paisiblement sur une quarantaine d'hectares au Croult-Géoran, dans la région des sucs volcaniques de la montagne ardéchoise. François et Camille ont choisi la monotraite pour concilier vie à la ferme et vie familiale, car pour Camille, originaire de la région parisienne, ce choix d'élevage lui a permis de vivre son rêve, s'installer près des volcans avec des vaches.
Tiens, salut ma mère. Elle est magnifique, hein ?
Ouais, c'est la plus grande.
Rutabaga, c'est son nom.
Rutabaga, ouais, c'est une croisée montbéliard et vosgien. On a fait quelques croisements pour avoir un peu plus de rusticité sur le troupeau, parce que comme on essayait d'avoir toutes les vaches qui veulent au même moment, on avait besoin qu'elles soient très fertiles. Et en fait, on se rend compte qu'en faisant de la monotraite, finalement, elles sont aussi fertiles les unes que les autres, parce qu'on leur tire pas sur la couenne, quoi.
La monotraite, c'est une traite une fois par jour.
La monotraite, c'est une traite une fois par jour. Alors, on peut le faire que pendant un certain temps de la saison. Au départ, on traisait deux fois par jour jusqu'au mois de juillet. Et quand l'herbe était plus dure, on passait en monotraite jusqu'à la fin de la saison. Et depuis qu'on a un petit garçon, depuis qu'on a des enfants en fait, depuis qu'on a eu le deuxième petit garçon, on est passé en monotraite intégrale, on dit intégrale parce que du début à la fin de la lactation, on traite qu'une fois par jour.
Toi, tu as toujours rêvé d'habiter près des volcans.
Oui, alors quand j'ai fini le lycée, je suis rentrée en classe préparatoire à Paris. Et j'ai étudié la géographie comme matière principale. Et j'ai étudié une des premières cartes que j'ai commentées. Je faisais des commentaires de cartes à l'époque. C'était la carte du Monastier-sur-Gazeille. Et autour, il y avait tous ces petits ronds. Et donc, j'ai appris que c'était des volcans, des sucs. Donc, pour faire mon commentaire de carte, j'avais 48 heures pour le préparer. J'ai dû lire beaucoup de choses sur le secteur. Donc, j'ai appris l'existence de la burle, des congères, de la forte exode rurale qu'il y avait eu ici. J'avais toujours dit que je viendrais vers 40 ans m'installer sur la montagne ardéchoise avec deux vaches pour faire ma deuxième partie de vie ici. Puis finalement, je suis arrivée un peu plus tôt.
Et puis la monotraite, ça te permet aussi d'avoir plus de temps. Ça vous permet, avec François, d'avoir plus de temps pour les enfants, pour tout.
Bah oui, quand on a fini la traite et la fromagerie, on a du temps pour faire tous les autres travaux de la ferme. Les réparations, les clôtures, d'autres travaux qu'il peut y avoir sur la ferme. Et puis aussi, on n'a pas l'astreinte. Donc on peut aussi prendre du temps pour nous, sortir avec les enfants l'après-midi. Le soir, on n'a aucune contrainte horaire sur la fin de la journée, à part le coucher des enfants. Et donc voilà. Moi, je pense que si je n'avais pas fait la monotraite, j'aurais pas réussi à tenir le coup en faisant la traite deux fois par jour toute l'année.
Un bel exemple pour concilier, je trouve, l'utile à l'agréable. Je vous ai mis des photos pour illustrer ce bonheur. C'est sur notre site internet à la rubrique « Gens d'ici ».
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici, Brézizel.
Et non, crèche, ça désigne pas une garderie en breton. Je vais vous l'expliquer. Avant cela, un petit dicton.
Le petit cours de breton.
Je sais pas pour vous, mais moi j'adore la sagesse populaire, le bon sens des anciens dictons. Et celui que j'ai choisi pour vous, bah, tombe sous le sens. Mais c'est mignon. Écoutez bien. Gant nitra. Nérer tra. Alors, ceux qui comprennent ont sûrement déjà un petit sourire, parce que, bah oui, c'est bête comme chou, mais ça marche. Gant nitra, nérer tra, littéralement, avec rien, on ne fait rien. Gant nitra, nérer tra. C'était utilisé dans le sens de « on n'a rien sans rien ». Si on ne fait pas d'effort, on ne peut pas avoir de résultat, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours. Ça fonctionne pour tout ce qui demande un minimum d'effort physique ou intellectuel. Gant nitra, nérer tra. Ça sera notre phrase philosophique du jour, ou votre mantra breton du jour, si vous voulez. Une dernière pour bien mémoriser. Gant nitra, nérer tra.
Nom d'un petit breton.
Et du coup, créar. Créache. Aïe, 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 aïe. Encore un mot breton bien malmené, comme quignamonde. Souvent mal écrit et surtout très souvent mal prononcé. Le mot breton, c'est créar. Et ce mot, on le retrouve dans des hameaux ou des quartiers, même pour un phare. Et la bonne production est crère ou créar. Créar, c'est une prononciation plus du Nord Finistère, mais on la trouve parfois ailleurs. Et crère ou créar, dans la langue bretonne parlée, c'est le haut. Créranti, c'est l'étage de la maison. Et dans les non-lieux, c'est un point haut, donc un lieu habité en hauteur. Créar, crère. Et c'est aussi une colline ou une montagne, comme l'une des plus célèbres, le Ménéum, dans le Finistère, qui est surnommé Acher, c'est-à-dire la colline. Donc voilà, si vous souhaitez vous approprier ce mot, n'hésitez pas à surtout bien le prononcer, ça fera du bien aux oreilles. Crère, créar et Acher, si vous mettez l'article devant. Je vous laisse vous entraîner. Je vous dis à demain, même heure, pour d'autres petites surprises. Canevarhouas.
Le petit cours de breton, à podcaster sur ici.fr et sur l'application Ici.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici au Serre.
Itinéraire bis cette semaine, nous sommes à Villeneuve-sur-Yonne et aujourd'hui, pause gourmande et sucrée. Je suis à la maison d'Onon, François de Charon, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci de nous accueillir dans cette maison qui a toute une histoire ici à Villeneuve-sur-Yonne.
Oui, effectivement, c'est un passage obligatoire, la maison d'Onon à Villeneuve-sur-Yonne. Elle a été créée en 1920 par la famille d'Onon. Et aujourd'hui, au 1er janvier 2023, j'ai repris l'entreprise et j'essaie de perpétuer cette tradition du pain d'épices et du miel. Moi, je suis arrivé dans Lyon, enfin ma famille est arrivée dans Lyon il y a une quarantaine d'années et on était déjà clients, en fait, depuis toujours à la maison de Nom. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai été complètement séduit et conquis à la fois par les produits, par l'équipe et par le cadre idéal dans lequel on exerce notre métier.
Cette maison, vous avez voulu lui donner une autre image. Quelle est la pâte François de Charon ici?
Alors, la pâte François de Charon, c'est d'abord, en fait, perpétuer la tradition et le savoir-faire de la maison d'Onon au travers de nos produits intemporels qui sont le pain d'épices, la biscuiterie et également le miel, bien entendu. L'idée, c'était d'avoir une image qui corresponde un peu plus à ce qu'attendent aujourd'hui nos clients, une image peut-être un petit peu plus premium et qui se démarque et qui montre en même temps la qualité des produits qu'on fait à la maison d'Onon.
Et puis, ici aussi, on est au cœur de la maison, à côté de l'atelier de fabrication. Ici aussi, vous avez voulu redonner une autre image à cette maison.
Oui, en fait, quand je suis arrivé, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de clients qui aimaient passer du temps chez nous, qui aimaient regarder ce qu'on faisait, regarder la fabrication. Et donc, j'ai installé effectivement une cour, je l'ai végétalisée, j'ai installé des tables, j'ai mis tout un tas de visuels où on voit le processus de fabrication pour que nos clients, quand ils viennent, ils aient envie de rester et qu'ils soient bien quand ils restent, qu'ils puissent déguster nos produits, boire un café ou une boisson fraîche.
Là, on est dans ce salon de thé, votre création, et puis juste à côté, une boutique qui, elle aussi, est nouvelle.
Alors, elle existait déjà, mais effectivement, on a fait quelques petits changements. On a remis en avant nos produits d'exception, qui sont vraiment le pain d'épices et le miel. Et puis, on a aussi développé toute une gamme de biscuits, qui maintenant deviennent de plus en plus recherchés par nos clients. On essaye d'amener de la nouveauté chaque année, notamment au moment de Pâques et au moment de Noël, où on prépare des créations spécifiques pour ces périodes festives.
Les produits de la maison d'Onon, on les retrouve ici au cœur de Villeneuve-sur-Yonne, dans cette très très belle boutique, mais sur d'autres points de vente.
Oui, effectivement, on a un point de vente le vendredi à Villeneuve-sur-Yonne également, mais sous le marché couvert, et à Sens, le lundi, vendredi et samedi, sous le marché couvert. Et nos produits, on les retrouve bien sûr sur notre site e-commerce, où vous pouvez retrouver l'ensemble de notre gamme, les acheter et vous les faire expédier.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur.
La nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Paris-Île-de-France.
Paris, c'est le trait d'union, disons-le, entre les cultures. C'est le cas entre l'Alsace et l'Île-de-France. La preuve avec la réussite d'un Alsacien qui va créer chez nous la brasserie Beaufinger, devenue un monument de la gastronomie à Paris. Thierry Boeuf vous y invite, c'est Bistrot de Paris.
Et le cocktail américain, c'est quoi?
C'est un coquelet grillé avec une sauce américaine, tomates, échalotes, une pointe de cognac, du vin blanc. C'est un peu relevé.
Un décaïn!
Pâté, jambon, c'est du pain rayette, gruyère, cantal, rosbif, jambon de pays.
Eh ben, tout ça, ça va aller dans la blanquette. Bon appétit!
À Paris, subsistent encore quelques mammouths de la gastronomie, encerclés de toutes parts de chinoiseries et de fast-food endémiques.
Sandy, une pointe de sel, un coup de moulin à poivre dans l'aioli, s'il te plaît.
Le dernier rempart de la Bastille se nomme Beaufinger. La résistance est rude, soutenue par des tonnes de guirlandes de saucisses de Strasbourg et de plats de choucroute fumante, où jadis, les critiques Go et Millot aimaient s'attabler.
Henri Go, Christian Millot, vous allez nous faire les honneurs de cette table, qui est certainement l'une des meilleures de Paris.
Elle est surtout réputée pour sa choucroute qui est merveilleuse, je dois dire.
Ça s'appelle Beaufinger et la brasserie Beaufinger a été à partir de 1920 le leap des années folles. Il y avait une assistance très brillante qui venait dans cette vieille brasserie alsacienne il y a une salle de peinture de Hancy et on voyait Cocteau, Chaplin, Marie-Laure de Noailles. Tout Paris venait chez Beaufinger, qui était célèbre également pour ses huîtres et son banc d'huîtres. C'est le concurrent de Lippe maintenant, vraiment.
Beaufinger est la plus vieille brasserie de la capitale. En 1864, Frédéric Beaufinger, originaire de Colmar, quitte son Alsace chérie pour Paris, avec dans ses malles toutes les spécialités de l'Est de la France. Mais le coup de génie du jeune Alsacien consiste à servir de la bière fraîche et mousseuse, brassée à l'air et distribuée à l'aide d'une pompe. Autrement dit, les Parisiens découvrent pour la première fois la bière pression. Repas d'affaires, dîner d'anniversaire, viré entre copains, touristes en goguette, couple légitime, amant pressé. Pour paraphraser André Malraux, Beaufinger, c'est comme le métro parisien à 18h. Et même un renfort inattendu vient prêter main forte à la brasserie, en la personne de l'intellectuel et philosophe Roland Barthes.
Les cafés à Paris, chez lui, c'était plutôt le Flore, c'était le Bonaparte,
oui,
c'était son quartier de Saint-Germain-des-Prés.
Oui, c'est ça. Mais le seul restaurant vraiment d'élection, en quelque sorte, qui ne soit pas lié à des opportunités de géographiques, c'est cette manie, dit-il, pour Beaufinger. Et il a beaucoup aimé Beaufinger dans ces années-là, qui était un restaurant parce qu'il y mangeait du poisson.
Alors ça, c'était pas du tout dans son quartier, ça.
Non, justement.
C'était un expatrié.
Ça voulait dire que c'était justement un choix.
Envie d'une soupe à l'oignon gratinée, de 6 huîtres creuses de Normandie, de gros escargots de Bourgogne, un œuf mayonnaise, un pâté en croûte, un homard flambé au whisky ou la fameuse choucroute servie depuis 160 ans. Direction la Bastille, qui a fait sa révolution à deux reprises, en 1789, aux commandes les révolutionnaires du Faubourg Saint-Antoine, et en 1864, grâce à un seul homme, Frédéric Beaufinger.
Je ne sais pas vous, mais toute l'équipe du 7-9, ça nous a ouvert l'appétit avec cette chronique. Les bistrots de Paris, on réécoute sur francebleuparis.fr. Merci à Thierry Boeuf.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Héro.
À la base, le chemin de Saint-Jacques, c'est vrai que ça, c'est plus ou moins spirituel, quand même. Il ne faut pas se leurrer.
Spirituel, parce que spirituel.
Oui, spirituel. Pardon. Excusez-moi, spirituel. Spirituel, excusez-moi. Vous n'avez pas enregistré, c'est bon.
Virginie et vous.
Virginie, on vous attend à 13h ce dimanche, Ville La Plaisance, dans le centre-ville de Lodève. Signé Bruno et Lily. Le couple héberge des marcheurs du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ce dimanche, ils ont invité une trentaine d'hébergeurs héroltais à une journée de rencontre. Avec Théo, le technicien du son, on arrive pendant l'apéro. Dans la cour de leur maison vite, des tables hautes ont été installées. Tout le monde se parle avec le sourire, un verre ou un toast à la main. Quand je suis partie faire ce reportage, je pensais aborder l'hébergement des marcheurs. Pourquoi on héberge, comment? Mais très vite, un autre sujet s'est imposé, la marche. Car s'ils sont devenus hébergeurs, c'est parce qu'ils ont été hébergés et que cette rencontre a changé quelque chose en eux pour toujours. Exemple avec Miguel, qui accueille les gens sur l'UNAS depuis 2016.
J'étais marcheur avant d'être hébergeur. Je fais les deux parce que je continue de marcher. C'est un manque qu'on a dans le cœur que à un moment donné, je disais, ça me manque, c'est un besoin qu'il nous faut combler.
C'est-à-dire que tous les ans, vous partez pour marcher?
Oui, moi, tous les ans, je fais un chemin ou l'autre. Cette année, j'ai fait le chemin de Saint-Guyen. J'ai fait une partie du chemin de Saint-Guy.
Ouais.
Et bon, l'an dernier, il y a deux ans, j'ai fait le Camino Primitivo en Espagne.
Ah ouais,
aussi, qui était magnifique, qui est très beau.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, Miguel, je vais accueillir des gens?
Grâce à une pèlerine. Et qui avait eu un souci et qui était tombée. Et je n'avais pas encore le gîte ouvert. Et que grâce à elle, par rapport à ce qu'elle a vécu, ce qu'elle était tombée, tout ça, elle sortait d'une séparation, d'une maladie. Et je l'ai accueillie, on l'a accueillie ce jour-là. Et donc, ça fait que le déclenchement de pouvoir entamer le gîte.
Il n'y a pas de hasard, en fait.
Albine, marcheuse et accompagnatrice sur le chemin.
Le chemin vient nous chercher et ne nous lâche pas, en fait. Et donc après, ben même après avoir cheminé, il va encore créer des choses pour nous. Et...
Vous dites, c'est le chemin qui vient nous chercher.
Vraiment.
C'est-à-dire que quand on a l'idée, parce que moi, ça m'a déjà traversé l'esprit, de me dire, tiens, je vais faire un bout du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Pour vous, ce n'est pas moi qui décide, c'est le chemin qui vient m'appeler.
Totalement.
Ça, c'est hyper religieux et mystique, votre truc.
Pas du tout, non.
Non,
pas spécialement.
Vraiment...
Non, pas spécialement pour moi. Comme on dit, chacun trouve midi à sa porte.
Oui,
c'est la foi. Et la foi n'est pas forcément religieuse.
Mmh. Si après tu deviens toi-même hébergeur, c'est parce que tu n'as pas envie de quitter ce truc-là, tu as envie de continuer.
C'est un peu ça, c'est-à-dire retracer la convivialité, tout l'accueil que j'ai eu.
Alors voilà. Ça veut dire que vous transformez votre maison à ce moment-là? Comment ça
pas
se passe?
Pas spécialement. Mais oui, mais moi j'ai la chance que je suis dans une villa et que j'ai le rez-de-chaussée à disposition.
Voilà, et est-ce que c'est payant ou pas?
Oui, mais alors oui. C'est
dérisoire.
Oui, c'est-à-dire on fait des sommes en s'adaptant au pèlerin.
De toute façon, c'est ça le chemin. C'est vraiment l'idée, je pense, comme tu le disais tout à l'heure, c'est de rendre ce qu'on a reçu, de continuer en fait le chemin d'une autre façon.
Miguel me dit qu'il y a une grande différence entre randonner et marcher. Quand je lui demande laquelle, il me répond « il faut le vivre pour le comprendre ».
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Cotentin.
J'aimerais bien être riche parce que je veux bien payer une maison, une voiture. Pas forcément tout ce qui coûte très cher parce qu'on n'en a pas forcément besoin. J'aimerais bien avoir beaucoup d'argent et comme si j'étais au club des Paris pour bien me nourrir, pour avoir des belles voitures, pour partir en vacances. Et aussi, si on n'a pas de maison, du coup, s'il a de l'orage, du coup, ça va nous tomber dessus et on va être mort. On peut être riche, si on a déjà une maison, on peut s'acheter une maison de luxe, des voitures de luxe, par exemple une limousine.
Ma BM, ça voulait dire qu'on était riche.
J'aimerais bien être riche parce que je veux bien payer une maison, une voiture. Pas forcément tout ce qui coûte très cher, parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Bah aussi, j'aimerais avoir de l'argent pour ceux qui sont pauvres, pour les aider ou leur acheter une maison et des aliments. Je trouve que ça sert à rien d'être riche parce que on peut être normal, c'est mieux d'être normal parce que quand on est riche, je trouve que c'est pas très gentil parce que ça donne envie aux autres, mais vu qu'ils ont pas assez d'argent, et ben ça leur donne de la tristesse.
Je hais ces gens riches qui, avec un peu d'or, croient réparer les malheurs dont ils sont responsables.
Et ça veut dire quoi être normal?
Ça veut dire avoir de l'argent, mais pas beaucoup non plus.
Est-ce que vous avez envie d'être riche et célèbre?
Non, moi j'ai envie d'être célèbre à la télé, au foot, vu que je fais du foot, j'ai envie d'être célèbre. Bah c'est bien, vu que au moins si tu prends quelque chose à un magasin et que t'es célèbre et que tu t'es déguisé, et bah t'as oublié de payer, et bah au moins celui qui vient te chercher, t'as juste à te déguiser et au moins il voit que t'es célèbre et du coup après il dit pardon.
local, musique et bonne humeur.
Tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté. Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion. Je dois être le fou, comme je ne suis pas cavalier. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin.
Le peuple était au pouvoir. Il n'y avait plus du tout de politiciens. C'était le sou, le bandit des magasins. Tout le monde avait un droit et plus personne n'avait faim.
Je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Oh, 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 oh. Je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton voisin et ça donne.
Je me souviens des amis avec qui j'ai grandi. Ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent. À chacun son move, à chacun sa galère. Les chemins où tu ris sont les mêmes que ceux où tu pleures. La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur.
Mais te souviens-tu des amis que tu as eu question? Te souviens-tu de ce que tu as perdu? Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton voisin et ça donne. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton voisin.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast Ici Provence.
Vous aimez le cinéma? Bonjour Médéric
Gasquet-Cyrus.
Vous aimez, oui, le cinéma?
Oui, oui, oui.
Allez, David aussi.
Mais oui.
Bon, voici un extrait, je suis sûr que ça va vous parler.
Ça l'occupe,
t'as relevé le numéro.
J'ai pas eu le temps, il est allé trop vite.
Eh ben alors, ma poule, il faut ouvrir les yeux, hein.
Eh
c'est, ouais, un métier, ça.
Oui, c'est un métier, ça me rappelle donc
la CCM Compagnie.
Taxi.
La
grande vadrouille. Le film Taxi. Et avec ce radar dans le film, de quand date le premier radar routier? La réponse, c'est 1899.
Non.
Oui, mais à l'époque, c'était pas une grosse boîte qui nous flashait. C'était une autre technique. Et Stéphane Bern va nous la dévoiler tout à l'heure, juste avant le journal de 8h. Et vous verrez qu'à l'époque, il y en avait aussi dans la caboche. Hein. Comme Médé, d'ailleurs, qu'on, ouais, retrouve pour le Parler Marseillais tous les matins, Médéric. Alors, vous étiez hier au Héros Festival, c'est ça,
Marseille, ouais, samedi, ouais,
samedi, au Parc Chano. Comment ça s'est passé?
Ah bah, très bien. C'est la première fois que j'y allais. C'était un plaisir, ouais, de se balader dans les halls consacrés à tous les personnages des mondes imaginaires. Mario, Naruto, One Piece, Kaamelott, et puis pour les gens de ma génération, Goldorak, ah ouais, les Bisounours,
ah oui,
Star Wars, la voiture de Starsky et Hutch,
wow,
et plein d'autres choses. Le meilleur, c'était bien sûr les costumes, hein, parce que c'est aussi un festival de cosplay. Beaucoup de gens sont venus déguisés en chevalier du Zodiac, en personnage de Harry Potter, en tortue ninja, en stormtrooper de Star Wars, en Dark Vador, en vampire, en Pokémon, en Luigi, en soldat. On a même vu un Batman se faire refuser l'entrée, parce que même si on était en costume, il faut avoir le billet pour entrer. Tu rentres pas, tu n'as pas le billet, tu rentres pas. Alors par contre, j'ai vu personne en costume de Mouninotor. C'est bien dommage.
Un mouninotaure.
Qu'est-ce que le mouninotaure?
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Vous connaissez pas le mouninotaure, mais c'est le gardien de la grotte de la Mounine.
Ah non.
Un horrible pachoderme à deux trompes.
Un pachoderme.
Mais oui, je vous explique. Mouninotaure, c'était le motus à trouver samedi. Alors oui, c'était un peu vache, c'est le cas de le dire, mais ça collait bien à l'esprit du Héros Festival. Le Mouninotaure est un monstre imaginaire inventé en 2004 par le groupe Quartier Nord dans son opérette rock marseillaise Les Aventures du Chichi Perdu, dont ouais. Je porte le t-shirt, regardez, avec un beau chichi doré, vous voyez, sur le poitrail. Là, c'est
la
beau,
quête hein. Du gras.
La quête du gras. Et comme je vous l'ai dit, il garde la grotte de la Mounine et il est représenté sous les traits d'un vigile habillé d'un blouson noir et portant sur la tête deux sortes de cornes blanches qui retombent un peu sur les côtés, qui font aussi penser à des trompes, d'où surnom de horrible pachoderme à deux trompes. Je crois que vous avez compris l'allusion à la Mounine. Je fais pas le dessin. Voilà. Donc c'est bien une mouvalise forgée sur Mounine et Minotaure. Le Minotaure étant non pas l'enfant de Michel Thor, mais ce monstre légendaire au corps d'homme et à la tête de taureau qui gardait le labyrinthe du roi Minos en Crète et qui a tué Thésée, sauvé par le fil d'Ariane. Dans le livret du groupe Quartier Nord, le Mouninotaure est présenté comme, je cite, un videur de nightclub un peu nerveux, au pédoncule démesuré et au parler racaille. Il est aussi qualifié d'espèce d'ongulée. Bref, pas de Mouninotaure au Héros Festival, pas de Faco Mocher non plus, et quelqu'un sur Blue Sky m'a demandé qui était le plus fort des deux. Alors je sais pas, il faudrait organiser un combat entre le Mouninotaure de Quartier Nord d'un côté, le Faco Mocher d'Espigoule de l'autre. Ça ferait un beau jeu vidéo, vous savez, sur le modèle de Street Fighter. On pourrait y ajouter d'autres bêtes, d'autres monstres provençaux, comme la Tarasque, la Garamaude, la Cabre d'Or, ou encore le Viedas de Cornu et la terrible Cagolas Aventouse, dans un livre de Jean Contrussi. Pour finir, à l'occasion du Motus en live qui s'est joué samedi matin, on s'est régalé. Nous avions caché quelques Pokémon surprises qu'il fallait aganter, quelques Pokémon comme avec des noms d'ici qu'il fallait trouver, comme Pikachu, Pikachu, Pikafouch, Pikagol ou encore Pikabestron. Et on pourra en inventer des moulants d'autres, mais avouez qu'il faut être un peu chouchou pour faire ça, ou plutôt Pikachu.
Bravo. Le Mouninotaure, une espèce d'ongulé. Donc voilà, on le découvrait ce matin. Merci Médéric. Vous jouez avec le parler marseillais, motus.fr, tous les jours un mot à découvrir sur le site internet. C'est le principe. Vous m'expliquez le mot d'hier, là.
Soukaou. Ah, ouais. C'est quelqu'un qui un peu trop picolé, qui dort, qui ne dort rien. C'est le souche, en fait. C'est
d'accord. Bûche, voilà. Ok, un peu comme David le dimanche. Après,
jamais.
Après la daube.
Jamais.
Après la daube.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Poitou.
Aujourd'hui, c'est à la crèche que je vous propose de me suivre. On est dans les locaux de Geste Édition, l'un des plus gros éditeurs de la région Nouvelle-Aquitaine, et même un peu plus aujourd'hui. Je suis avec Romain Audin, directeur général des éditions Geste. Bonjour.
Bonjour, Florian.
Bon alors, comment on fait pour avoir son livre dans une librairie, les différentes étapes? Là, on est dans ton bureau. Ce serait quoi, là? Je te donne un manuscrit, comment ça se passe?
C'est exactement ça. On reçoit 10 à 15 manuscrits par semaine. Ça fait beaucoup par an. On le lit, on croise notre lecture avec le comité de lecture qui se réunit ici tous les mois dans mon bureau. Et puis on décide si ça peut intégrer notre catalogue ou pas.
Là, c'est calme, c'est ton bureau. Mais il y a des endroits qui sont un petit peu plus mouvementés. J'imagine qu'une fois que le livre a été remis, qu'il a été lu, il n'est pas de suite imprimé, il y a quand même tout un travail avant.
Oui, c'est ce qu'on appelle les épreuves, les corrections, les bons à tirer, les BAT, c'est-à-dire qu'on corrige, on valide, on entretient des épreuves, et puis une fois que c'est bon, on dit, allez, on peut l'imprimer.
Là, on est dans ton bureau, mais est-ce qu'on peut aller justement découvrir un petit peu l'endroit où nous sommes? Parce que c'est un peu particulier ici.
Allez, c'est parti.
Et là, ouais, donc déjà, changement d'acoustique. On est au rez-de-chaussée, il y a un petit peu de monde, parce qu'aujourd'hui, il y a des portes ouvertes, mais... Effectivement, quand on arrive ici, ouais, ça change de ton bureau. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de livres.
Il fait plus froid déjà, et on a 3000 mètres carrés. On a 12 mètres sous hauteur là, et donc on a les fameuses 50 000 références qui sont ici. Et donc chaque jour, on vient chercher les commandes pour les expédier chez les libraires. On reçoit les retours aussi des libraires qui n'ont pas vendu, parce que c'est dans la chaîne du livre, on accepte les retours. Et donc tout se passe dans ce centre névralgique. Là, on est dans le cœur du réacteur. Donc là, c'est une ruche. Hein. Dans la semaine, ça bouge. C'est pas mon bureau. Là, ça pulse.
Ouais, mais alors, faut avoir quand même tout bien rangé, parce que moi, mon bureau, c'est un bordel. Ça, je sais, mes collègues me le disent, il y a 3-4 bouquins qui se battent en duel. Mais là, si on ne range pas bien, c'est mal barré.
Ah, c'est impossible. Il faut que ce soit millimétré. On a un logiciel interne, ce qu'on appelle un ERP, qui règle tout ça, c'est-à-dire qui donne une sorte de lieu pour chaque livre. Il a une sorte de carte d'identité de livre, et on doit pouvoir le trouver en 5 minutes pour l'expédier.
Là, ça veut dire que si on doit chercher un livre en 5 minutes, tu sais où il est?
Ouais, parce que on va savoir dans quelle région il est, et donc on sait déjà où aller, dans quel stock. Et puis ensuite, on a une façon chaude et froide de ranger les livres. C'est un peu plus technique, c'est-à-dire que les livres chauds, ce sont les livres qui marchent très fort, eux, on les met très très proches de la zone d'expédition. Et puis les zones froides, les zones plus calmes, qui marchent moins, on les met assez loin, de sorte que les colliseurs aient moins de pas à faire.
Vous pouvez me laisser un petit rayon froid pour le livre qui s'intitulera Florent Lévesque, Ma vie, mon œuvre.
J'espère pas, j'espère qu'il sera chaud. Et on a besoin de vendre des livres aussi, mais eh ben, j'espère pas. C'est, vous savez, en édition, on appelle ça l'enfer. Le froid, c'est l'enfer. C'est paradoxal. Le froid, c'est l'enfer. On essaye de baisser les prix, on essaye de faire des actions pour ne pas pilonner les livres. C'est un crève-cœur. Et puis donc, l'enfer, ce sont les livres froids chez nous.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici mène.
Ça fait plaisir de parcourir le centre des expositions du Mans en golfette. Et au volant, il y a Alain Pardessus. Bonjour Alain.
Bonjour Bruno. Alors,
je vais m'autoriser à le dire, vous avez 58 ans. Quel est votre métier ?
À la base, je suis électricien et aujourd'hui au centre exposition, je suis responsable d'exploitation et responsable du patrimoine. Et régisseur général pour la foire du Mans.
Vous êtes Manceau, en tout cas certes de naissance ?
À l'origine, oui, oui, Manceau et de naissance, oui.
Quel était votre parcours, je dirais, scolaire ?
Alors avant d'en arriver là, j'ai fait le collège jusqu'en 3e. Ouais. Ensuite, je me suis dirigé vers un métier d'électricité. J'ai passé un CAP. J'ai été quelques années dans le bâtiment et puis j'ai atterri chez Le Mans Événement quelques années après.
C'est comment que de s'occuper, alors je vais dire des 4 jours. Je sais que le vrai nom c'est Foire du Mans, mais il y a tellement de personnes qui disent encore les 4 jours.
C'est comment ? Alors c'est tout un tas de métiers qui se rassemblent. Il faut monter des stands, il faut monter les intérieurs, les extérieurs, la moquette, l'électricité. Il faut être super attentif à tout ce qui se passe avec les exposants et puis être à leur service. Surtout, et tout ça dans l'ombre, effectivement, dans les coulisses du Centre Expo.
Rappelez-nous, vous faites ça depuis combien d'années ?
Alors, en tant que prestataire extérieur, j'ai commencé en 84, ouais. Puis après j'ai été embauché par Le Mans Événement en 98, donc je vais faire ma 40e foire.
Quels sont les moments croustillants que vous avez pu vivre là, à l'occasion de cette foire du Mans ?
Bon, il y a eu comme pour beaucoup le Covid, la période Covid qui a été compliqué, des événements météo sur la foire qui ont été aussi un peu compliqués, beaucoup de gros événements où techniquement il faut être vraiment très présent.
Ouais. Des moments drôles.
Des moments drôles aussi, ouais, oui, il y en a eu bien sûr, on est une équipe, on est une grande famille sur le centre exposition du Mans.
En fait, belle rencontre ici.
Belle rencontre avec tout un tas de clients depuis des années et des années. Donc on apprend à avoir tout un tas de clients, des professionnels de tous bords, politiques, industriels et autres.
Artistes ?
Artistes aussi, bien sûr.
Qui par exemple ?
J'ai eu l'occasion de rencontrer, moi, alors à la grande époque, Johnny Hallyday, vu ACDC, j'ai vu Trust ici. Et puis tous les actuels aussi, Christophe Maé, tout un tas d'artistes, effectivement, j'en ai vu un paquet.
Alain, par-dessus, quand la foire du Mans se termine, il y a un coup de blues ?
Ah oui, bien sûr. Oui, il y a un énorme coup de blues. Il y a un tel contact avec nos exposants que l'on connaît depuis des années et des années. Donc, ouais, on adore ce que l'on fait. Donc, c'est toujours un peu compliqué la fin de la foire.
Merci beaucoup. Alain Pardessus, on vous dit à très, très bientôt.
Merci Bruno, à très vite.
Et vous croiserez sans doute Alain Pardessus au Centre des Expositions du Mans.
Vous écoutez ici.
Cherche encore quelque part un peu de nous. C'est ton regard qui m'aide parce que c'est flou. Il faut qu'aujourd'hui tu comprennes que j'ai des doutes. Que les non-dits se transforment en j'en ai rien à foutre. Et sincèrement, même dans les échecs, on garde le pont. Et même si notre histoire un jour a vu le soleil, dans mes souvenirs, on a trop perdu de temps. J'aimerais que le vent se lève. Si seulement, si seulement, autrement. Mais si seulement on s'était dit les choses, si seulement il y avait eu les mots autrement, si seulement on s'était dit les choses, si seulement il y avait eu les mots autrement, si seulement, redessiner nos sourires. Je rêve du parfum de tes soupirs. C'est pas normal, non c'est pas normal de faire semblant. Seul on s'en sort mal. On n'a plus le temps. Je vis dans tes repères. J'ai des larmes de pierre. Je veux qu'on se souvienne que le silence nous perd. Je veux que tout s'arrête et que le vent se lève. Je viens de faire mes aveux.